qui m'a dit un truc médical que quand l'homme il est en manque de nourriture, et des fois quand il y a un malaise, alors le cerveau réduit les capacités, réduit ses actions. Et la première des choses qu'il fait, l'essence, il diminue l'influence sur l'essence. Donc il peut y avoir une manque de vision ou de goût qui vont provoquer que, ça veut dire, ça manque de nourriture, ça manque d'énergie va se traduire en un manque d'essence et des yeux. Maintenant, nous avons un professionnel là, docteur Uzi, Oudi, alors dites-nous, on vous a raconté ce qui est marqué dans la Gemara?
On m'a envoyé le dernier quart d'heure du cours d'hier. Et donc,
Oui.
j'ai écouté un petit peu. J'avais déjà vu un petit peu. Vous avez dit des choses assez justes, en fait. C'est-à-dire que, déjà, la Gemara est précise. Ce n'est pas la Mishnah qui dit qu'il y a une baisse de vision, d'après ce que j'ai compris, c'est la Gemara qui le précise.
Non, la Mishnah, je vous dis le texte. Quelqu'un qui se fait attraper un boulmousse, donc il a archi faim, on lui donne à manger jusqu'à ce que ses yeux s'éclaircissent. Ça, c'est le texte de la Mishnah. Rashi nous dit que la faim provoque que ses yeux sont faibles. Est-ce que Rashi veut dire les yeux sont complètement éteints ou ils sont faibles, il voit c'est faible? Ça, je ne sais pas. Et Rachid dit, et quand il va manger, eh ben, la vision reviendra et on saura qu'il sera guéri. Et sur ça, la Gemara, ça c'est le texte de la Mishnah et Rachid. Et sur ça, la Braïta nous dit, d'où on sait que ses yeux s'éclaircissent dès qu'il sait distinguer entre le bien et le mal. Et Abba, il ajoute, le bien et le mal d'un goût. Ça veut dire, on lui donne à manger. Et si un bon plat ou un mauvais plat pour lui, c'est la même chose, eh ben, les yeux ne sont pas encore éclaircis. Et quand il sait distinguer entre un bon plat et un mauvais plat, nous saurons que les yeux, ils sont rétablis et c'est bon, on arrête de donner à manger. Ça, c'est le texte de la Gemara.
Oui, j'ai vu. Alors, déjà, a priori, on parle d'une baisse de vision. On parle pas fort. Enfin, je sais pas si on parle d'ailleurs d'une baisse de vision ou si on parle d'un trouble visuel, c'est pas pareil. Si on parle d'une baisse de vision des deux yeux ou un seul œil, c'est pas pareil du tout. Si on parle que la baisse de vision, elle est complète, elle est dans le noir, ou alors c'est juste un problème de champ de vision ou un problème de une vision qui baisse un peu, juste un peu. Ce n'est pas exactement du tout la même chose. A priori,
Expliquez-nous plus en détail, rentrez un peu plus dans les détails.
ça voudrait dire que si quelqu'un il dit qu'il voit moins bien d'un œil, a priori, le problème il se situe dans l'œil. Si le monsieur il dit qu'il ne voit pas bien des deux yeux, a priori, le problème il est général. Ce n'est pas un problème dans l'œil, c'est un problème général qui affecte les yeux. Ça peut être neurologique, ça peut être métabolique. Métabolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un problème dans le sang ou général. Et c'est vrai que après l'histoire du goût, si vous regardez sur Internet les signes cliniques de l'hypoglycémie, un des signes cliniques qui a été rapporté, en plus des troubles visuels qui peuvent être très très variés, on peut avoir des mouches dans la vision, on peut avoir une baisse de vision, une baisse, juste une baisse, on voit moins bien, ça peut être tout noir. On peut aussi avoir un trouble du champ de vision, le champ de vision qui se rétrécit. Mais un des signes cliniques, c'est aussi la perte de goût. C'est un signe clinique de l'hypoglycémie. Vous pouvez aller regarder sur Internet, vous allez voir. C'est un des signes. Donc, le mot boulmous, ça veut dire, c'est un symptôme. Excusez-moi une
On
seconde.
entend votre fille, tout le monde entend votre fille, elle deviendra célèbre là dans ce cours.
N'est pas d'accord avec moi, mais je voulais dire qu'on lui demande pas son avis. Donc, le boulmous, c'est un symptôme. Je ne sais pas si c'est une maladie ou un symptôme. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous dites la fièvre. La fièvre, ce n'est pas une maladie. La fièvre, c'est un symptôme. Et le boulmous, je ne sais pas si le boulmous, c'est le fait de vouloir manger beaucoup, ça c'est le boulmous, ou si c'est une maladie en soi, ce qu'on appellerait la boulimie, ou je ne sais pas, ou ce qu'on appellerait. Mais arrête. Donc, si le boulmous c'est un symptôme, c'est-à-dire qu'il a faim, parce que, par exemple, il manque de sucre dans le sang, ça peut coller avec le reste, c'est-à-dire que le fait qu'il voit moins bien, et le fait que peut-être parfois le goût il disparaît. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on lui dit il est dans le noir. Pourquoi il serait dans le noir? Pourquoi il serait dans le noir? Alors, peut-être que on peut parler d'une autre maladie. Peut-être on peut parler de la migraine. La migraine, les gens, ils ont besoin d'aller dans le noir. Et la migraine, on peut avoir des baisses de vision avec la migraine aussi. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et vous avez parlé des, j'ai entendu sur le cours d'hier, vous avez parlé des nerfs crâniens. Alors c'est vrai que les deux, le goût et la vue, c'est lié au nerf crânien. J'ai entendu le nerf 5. Le nerf 5, il est lié à l'œil, mais que pour la sensibilité de l'œil, la cornée. Donc c'est pas lié à la vision. C'est le nerf de la vision, c'est le nerf numéro 1. Alors je ne sais pas si je vous aide à avancer dans votre réflexion, mais alors qu'est-ce qui pourrait causer une hypoglycémie? Parce que ça peut être le jeûne, bien sûr. Ça peut être une maladie. Quelqu'un il peut avoir une tumeur qui sécrète de l'insuline et il peut avoir une hypoglycémie. Le diabétique, en général, s'il ne prend pas d'insuline ou s'il ne prend pas de médicaments, il n'a pas d'hypoglycémie. C'est l'inverse, c'est plutôt l'hyperglycémie. Donc, faut peut-être que c'est un diabétique qui se traite. Alors, je vais juste fermer la porte pour ne pas être dérangé. J'arrive. Donc, après, on a parlé aussi d'étourdissement. On avait dit peut-être que peut-être que ce qu'on appelle la baisse de vision, c'est une image. C'est-à-dire que, en fait, Kéo et Nav, il est pas bien. Il est pas bien. Il est plus en contact avec la réalité. Alors, je ne sais pas si c'est ça parce que la Gemara plus haut, elle avait parlé d'un étourdissement. Elle avait appelé Tumba. C'est ça, hein?
Oui.
Alors, quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas le même mot? Pourquoi est-ce qu'elle dit dans un cas Tumba, les étourdis? Et un autre cas où il parle de Kéouenav, et là on dit vraiment, il ne voit pas bien. Et puis ça ne colle pas non plus avec le reste, parce qu'après on a l'exemple de David Ameller et l'exemple de Shaoul, qui lui pour le coup il ne voyait pas. Donc on reste sur les yeux.
Chez Jonathan, vous voulez dire.
Pardon, chez Jonathan, voilà. On a vraiment des cas où on parle vraiment des yeux, là, il ne voyait pas. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une image ou si c'est quelque chose de précis. Dont on nous parle dans la Gemara, dans la Mishnah, pardon.
Tunba, quand la Gemara, elle a dit le mot Tunba, ça a été dans le cas où le médecin, il dit, vous avez besoin de manger, et le malade, il dit, j'ai pas besoin. On écoute le médecin, on lui donne à manger. Pourtant, lui, il dit, j'ai pas besoin. Sur ça, la Gemara nous dit, ce que lui, il dit, n'est pas une référence, parce que Tunba ou de Nakitlei. Il est étourdi à cause de la maladie. En vérité, je ne sais pas c'est quoi la traduction du mot étourdi, c'est quoi le sens du mot étourdi.
Peut-être une faiblesse ou peut-être une conscience qui est moins forte. Mais dans ce cas-là, c'est pas pareil que Kawenav.
Mais on a dit que c'était une situation extrême. C'est-à-dire qu'il est dans un moment où il a absolument besoin de manger. Donc, il est défaillant. Moi, je trouve que nous avez bien éclairé en ce qui concerne les troubles visuels qui sont liés au fait que s'il est défaillant, c'est peut-être parce qu'il a une hypoglycémie ou peut-être n'importe quelle autre cause, si vous voulez. Il peut avoir un trouble d'arythmie ou quelque autre chose qui fait qu'il ne se sent pas bien et donc également sa vue est perturbée. Et donc, il demande à manger. Il demande à manger, non pas pour satisfaire la faim, mais parce que c'est une situation où il pense que le jeûne est responsable de ce qu'il ressent.
Vous, docteur, vous parlez de faim et vous parlez d'hypoglycémie. Est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose?
Alors, si c'est à moi que vous posez la question... C'est un ensemble. Il a faim parce qu'il ne mange pas et donc il est en hypoglycémie. C'est un ensemble. C'est pour ça que
pas nécessairement. On peut avoir faim sans être en hypoglycémie. Et on peut effectivement être en hypoglycémie. Mais là, la situation, c'est étant donné qu'il jeûne, donc à ce moment-là, il n'a pas mangé. Quand il demande à manger, ce n'est pas parce qu'il a faim, c'est parce qu'il se sent mal. Voilà. Donc, s'il se sent mal, c'est quoi? Moi, si vous voulez, c'est un mot qui me revient sans arrêt, c'est qu'il est défaillant. Il est défaillant, soit il a le pouls qui est ralenti, soit il se sent perdre connaissance, il a des troubles visuels. il peut avoir une relation métabolique. Le médecin qui vous a dit, Kvodarab, que quand on est à jeun, il y a effectivement toutes les fonctions sont un petit peu au ralenti, le métabolisme est également au ralenti. Donc ça, ça entraîne un certain nombre de différences par rapport à la perception d'un homme normal. Tout ça, c'est vrai. Mais moi, je ne comprends pas où est votre difficulté.
L'écart de difficulté hier, c'était sur deux points. Un point, pourquoi c'est les yeux qui baissent et en mangeant les yeux qui montent. Les yeux, le fait, les yeux, ils baissent, la vision baisse, c'est une preuve qu'il est en danger. Pourquoi c'est les yeux d'abord? Et après, la Gemara traduit d'une certaine manière que si je ne sais pas si les yeux ils voient ou pas, alors là, on regarde le goût. Et la deuxième difficulté que la Gemara n'a pas abordée, un cas classique. Le cas classique, quand le malade il vient, je me sens mal, je vais m'avenir, j'ai du vertige. Est-ce que je peux manger ou pas? Mais il ne se plaint pas de vue. Qu'est-ce qu'on fait sur ce cas? Ça, c'est le cas classique des gens. Je me sens mal, il faut que je mange. Est-ce que je peux manger? Et on lui demande, vous voyez? Oui, je vous vois, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara n'a pas abordé ce cas. Et on doit le manger jusqu'à quand? La Gemara parle, il n'a pas de bonne vue, ou il n'a pas de vue, et on doit le manger jusqu'à distinguer le bon plat du mauvais plat. Alors un homme qui n'a pas de trouble de vision, peut-être ça n'existe pas, peut-être chaque fois, peut-être la seule référence, et le trouble de vue, c'est la seule référence qu'on peut donner à manger. Je parle d'un homme en bonne santé. On avait déjà dit, il y a deux Mishnayot, une Mishnah de Cholé. Quand on est malade, ça c'est la première Mishnah, un malade, on lui donne à manger selon que lui dit ou selon que le médecin dit, c'est une chose. Après, un autre Mishnah, un homme qui a attrapé un boulmos, c'est il est en bonne santé, mais il a un boulmos qui se traduit par manque de vision. Alors je dis, il y a un troisième cas, un homme qui n'est pas malade, qui est en bonne santé, mais il dit, j'arrive, j'ai besoin de manger. Ce cas, les Chora, la Gemara n'a pas abordé. Et c'est ça que je demande, la Gemara n'a pas abordé, qu'est-ce qu'on fait? Mais on a toujours entendu que si quelqu'un dit, j'ai besoin de manger, il mange. Mais à quel degré? Je vais tomber dans les pommes. Je sens que je vais m'évanouir. Est-ce que nous allons dire, il sent qu'il va s'évanouir? Et s'il s'évanouit, les yeux, il ne va plus rien voir. Donc, 10 secondes avant de s'évanouir, c'est comme il serait évanoui. Il est en danger de s'évanouir. Donc, il aussi peut manger. Est-ce que ça, on peut dire? Ce n'est pas marqué dans la Gemara. Mais est-ce que ça, on peut ajouter? Est-ce que ça rentre quelque part dans la Gemara?
Peut-être que le fait qu'on nous parle de la vision, c'est juste un indicateur, un repère, pour nous dire que y a un signe de gravité. Il a perdu la vision, c'est un signe de gravité. Et ce repère, quand il va retrouver la vision, on nous dit que la gravité est passée. Et donc, c'est comme la fièvre. Si vous voulez, quelqu'un qui est malade, on va lui traiter sa fièvre. On ne va pas le guérir parce qu'on a traité sa fièvre. Mais c'est un indicateur qui va mieux. La fièvre a baissé. Qui va mieux, on a traité. La fièvre a baissé. Donc, ça veut dire que sur l'état général, va mieux grâce à ce repère qu'on avait, qui était la vision. Et pourquoi la Gemara, elle n'a pas parlé du cas où il ne rapporte pas la vision? Parce que peut-être qu'on parle d'un cas où le malade, il ne demande même pas de manger. Lui, il a boulmousse, il a envie. Il a envie de manger. On lui dit, tu lui donnes à manger. Tu lui donnes à manger jusqu'à ce que la vision revienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiour. Il n'y a pas de chiour, on lui donne parot kazaïd, petit à petit comme ça, pour qu'il retrouve petit à petit la santé. Non, là, il y a un signe de gravité. Il faut lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il retrouve la vision et qu'on passe le cap de la gravité.
Moi, j'ai lu, excusez-moi, si je peux me permettre d'intervenir, j'ai lu hier que le boulmousse, c'était une maladie qui s'appelait insulinome.
L'insulinome, c'est une tumeur, effectivement, qui peut provoquer des hypoglycémies.
Voilà, et l'insulinome, en fait, c'est une forme d'un cancer du pancréas. et qui apporte de l'hypoglycémie et qui fait perdre en partie la vue. Voilà.
Alors là, on ne parle pas de quelqu'un en bonne santé, on parle d'un cholé, alors.
Voilà.
Alors, si tu dis qu'il s'agit d'un homme qui a un cancer et compagnie, alors c'est vrai qu'il est cholé, mais pourquoi la Mishnah ne nous dit pas qu'il est cholé? Parce qu'il n'est pas cholé dans le sens classique que nous appelons dans la première Mishnah. Dans la première Mishnah, cholé, c'est un homme qui a fièvre, ou un homme qui après une AVC ou après une opération, etc., etc., c'est malade. Mais lui, c'est ce truc-là dans le pancréas, donc il se porte bien, mais il a une maladie que, si c'est vrai ce que tu dis, Hervé, il a une maladie qui s'appelle bulmus. Il s'agit d'un truc, un dérèglement, si je comprends bien, de pancréas et glycémie et compagnie.
Voilà, c'est un rabbin qui s'appelle Moshe Elzas, un rabbin qui s'appelait Moshe Elzas, qui a donné cette définition du bulmus.
Oui, mais la Mishnah ne dit pas tout à fait comme ça. La Mishnah ne dit pas qu'il présente cet état. Il y a marqué chez Ahazo, ça vient de le prendre. Donc, c'est pas qu'il a une maladie comme ça. Et Rashi nous dit que c'est du fait du jeûne, en quelque sorte, qu'il ressent des troubles visuels. Donc, Rashi nous a associé le boulmous avec des troubles visuels et associé au jeûne.
Oui, Hervé aussi parle à cause du jeûne. Il dit comment il a dit glycosaminomie, je ne sais pas
non,
quoi.
Non, l'insulinome, à n'importe quel moment, même en dehors du jeûne, il peut donner un trouble. Si c'est une tumeur du pancréas, si c'est une tumeur qui est hyper sécrétante d'insuline, ça peut arriver qu'il soit à jeûne ou qu'il ne soit pas à jeûne. C'est autre chose, c'est un cholé à ce moment-là.
Mais il faut lui donner à manger, ce truc-là, il faut lui donner à manger.
C'est comme quelqu'un diabétique qui se fait une piqûre d'insuline, si si ça se diffuse d'une façon un peu différente et que tout d'un coup il passe en hypoglycémie, bien sûr, il faut lui donner à manger. Parce que
un diabète, il faut qu'il mange qu'il pourra ou pas.
Ah oui, ça, il faut qu'il mange, ça dépend du diabète. S'il est insulinodépendant, c'est sûr qu'il faut qu'il fasse sa piqûre et il faut qu'il mange.
Sinon, il peut arriver quoi?
Ah ben sinon, il peut avoir un désordre, un déséquilibre, il passe dans l'acidocétose, c'est-à-dire il passe en hyperglycémie à un moment tel qu'il peut risquer un coma parce que son métabolisme…
Peut-être un boulmon se veut dire qu'il y a diabète, insulinodépendant, peut-être c'est ça le sens de la Mishnah.
Je ne peux pas vous répondre. Demandez à l'ophtalmo qu'est-ce qu'il en pense.
Est-ce qu'un diabète, il a des problèmes vision des fois?
Oui, beaucoup. Si c'était un diabète, on voit qu'il y a beaucoup de cas après d'histoires dans la Gemara où on voit des chachamim qui ont eu le boulmous. Et on voit que c'est des accès. C'est pas une maladie chronique. C'est un accès qu'il a eu. C'est-à-dire qu'il a eu à un moment donné, il a eu besoin de manger. Donc, je ne sais pas si c'est. Moi, je pense vraiment que c'est une crise. Le boulmous, c'est un symptôme. C'est une crise qui peut être dû à différentes choses. Alors, pour l'insulinome, déjà, c'est très rare. Très rare. Je ne sais pas si la Gemara avait pris la peine de faire autant de cas et autant d'histoires sur quelque chose de très, très, très rare. Et en plus, il faut se remettre à l'époque de la Mishnah. Ils n'avaient pas de scanner, ils n'avaient pas de tout ça pour savoir que c'est une tumeur au niveau de la glande, du pancréas. Bon, eux, ce qu'ils voyaient, c'est l'extériorité des choses. Ça veut dire quelqu'un qui est en crise. Il est en transpiration, il a faim. Il commence à perdre la vision. Donc, il faut agir, il faut lui donner à manger.
Ce fameux rabbin dont je vous ai parlé, il dit que le boulmous, c'est une maladie digestive.
Oui, parce que le pancréas fait partie du système digestif.
Voilà.
L'insulinome, c'est très rare, c'est extrêmement rare. Okay.
Si on dit que ce n'est pas, c'est un moment décisif, donc à ce moment-là, ce n'est pas le fait d'une maladie. À ce moment-là, on est obligé de dire que c'est une situation critique,
oui,
comme dit le bon docteur.
Vous pouvez être favorisé par une maladie. Vous pouvez avoir une maladie qui provoque, par exemple, l'épilepsie. C'est une maladie.
Oui, mais à ce moment-là, la Mishnah n'aurait pas dit que le boulmous le surprend, a pris sur lui. Le langage de la Gemara, c'est quelque chose qui est, comme on a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est presque instantané. Jusque-là, tout se passait bien, puis tout d'un coup, hop, il est dans une situation en quelque sorte critique. C'est pour ça que moi, je trouvais que le terme de défaillance était beaucoup plus adapté dans la mesure où la défaillance, c'est qu'on se sent mal, on se sent partir. Et effectivement, ça peut être accompagné de troubles visuels.
Docteur, vous avez cité le mot épilepsie. Alors hier, M. Chaim Kless, il m'a envoyé que le Pirush à Mishnayot, comme ça vous m'avez dit, je n'ai pas vérifié, vous m'excusez. Chaim Kless, il a vérifié que le Pirush à Mishnayot sur la Mishnah, il traduit Boulmos en, quel mot vous m'avez dit?
Épilepsie.
Il parle le mot épilepsie, le mot en araméen qui s'appelle, il est, j'ai oublié maintenant le mot, quel mot vous m'avez dit, Monsieur Kless? Ouvrez votre micro. Ouvrez le micro. Oui?
C'était Nirpin.
Nirpin. Nirpin, voilà. Nirpin, dans la Gemara, c'est dire épileptique. Alors, est-ce que les épilepsies peuvent faire des troubles de vision, docteur Oudi? Alors, est-ce que si on mange, ça change quelque chose ou pas?
Pas que je sache.
Non, c'est pas la nourriture. Donc, épilepsie, c'est bizarre. L'épilepsie, c'est pas un problème de nourriture. Hein. Épilepsie. Maintenant, le Rambam, il a écrit son pirouche en arabe. Ça, c'est connu. Et après, c'était traduit par quelqu'un en hébreu. Des fois, il y a des mots qui sont pas. On n'est pas sûr qu'ils sont bien traduits. Je sais pas quel mot hein, ça aurait été bien de voir. Il existe des spécialistes qui ont vu le pirouche du Rambam d'origine en arabe. C'est intéressant comment le Rambam traduit le mot boulmous dans l'origine. Quel était le mot d'origine? Est-ce que c'est le mot nirpin? C'est déjà une traduction en hébreu. Je ne sais pas quel mot le Rambam il a dit. Bon, M. Bitton, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais juste dire, Raviriel, je rejoins l'opinion du docteur Bérézic, c'est que ici la Mishnah, elle dit bien « Shohret de boulmous », ça ne veut pas dire qu'il est malade du boulmous, ça veut dire qu'il représente les signes cliniques d'un boulmous. Donc, ça peut très bien être un malaise vagal ou un malaise d'hypoglycémie. Donc, c'est quelqu'un qui est barré en temps normal et pitom parce qu'il n'a pas mangé, il a négligé ou il n'a pas mangé suffisamment, il se retrouve en hypoglycémie, donc il fait un malaise. Comme dans les situations d'urgence qu'on peut trouver dans n'importe quelle situation, ça arrive. Hein. Quelqu'un, vous lui faites une anesthésie, se retrouve spontanément en hypoglycémie, il fait un malaise vagal. Ça arrive souvent, ça. C'est des situations d'urgence et donc là, à ce moment-là, il faut un resucrage urgent.
Et malaise vagal, la solution, c'est manger?
C'est donner du sucre. Une société de resucrage. Eh bien, ça arrive souvent. Je trouve que les personnes qui sont un peu anorexiques, quand ils sont vraiment en hypoglycémie, la première des choses qu'ils ont, c'est qu'ils ont tendance à tourner de l'œil, ils perdent connaissance et ils tombent. Et pour les réanimer, vous savez, vous pouvez les caresser, il faut leur donner des claques. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une perte de sens, du côté sensoriel. Le côté sensoriel, c'est la première chose que le cerveau a tendance à déconnecter, quoi. Et donc, pour savoir vraiment si quelqu'un il est encore réveillé, justement, il faut faire appel au côté sensoriel de l'organisme. C'est-à-dire qu'on c'est encore le goût, c'est la vue. Donc, c'est pour ça que c'est mis en avant au niveau de la Mishnah.
Et c'est possible aussi que quand la Gemara nous parle le goût, c'est qu'étant donné que Bémet nous lui donnons à manger, en théorie, peut-être la Gemara elle est d'accord que pour savoir si ses esprits sont revenus, ce n'est pas seulement l'histoire d'un bon goût, un mauvais goût dans un plat. On aurait pu dire aussi pour, je ne sais pas, s'il se rappelle le nom de sa grand-mère. Peut-être la Gemara aurait pu faire d'autres expériences pour test, pour savoir où il en est. Mais comme on lui donne à manger, ils ont pris la chose la plus proche. On lui donne à manger. Vous avez besoin encore? Oui, j'ai besoin encore. Oui, vous sentez un bon goût dans cette soupe? Oui, elle est bonne. Elle est bonne. Alors, on lui donne une mauvaise soupe. Comment vous sentez? Ah oui, elle est bonne. Alors, lui, il a encore rien compris. Après, il dit, mais non, mais la soupe, elle n'est pas bonne. Ah, qu'est-ce que vous me donnez là à manger? Elle n'est pas bonne maintenant. Ah, celui-là, il a retrouvé les esprits. C'est là. Le goût, c'est parce qu'on lui donne à manger. La chose la plus facile à détecter, s'il a repris ses esprits, c'est pour savoir le goût.
Oui, mais Raviriel, encore une fois, quelqu'un qui est tombé dans les pommes quand vous le réanimez, après il faut qu'il puisse parler, pour qu'il soit Mafrine Bentov Lera. Donc il faut qu'il ait quand même une sensation de discernement. Ça, c'est au niveau du cerveau. C'est encore une fois, c'est quelque chose de sensoriel. Donc, encore une fois, la première des choses que le cerveau occulte, c'est les fonctions sensorielles. Et après, les premières choses qu'on retrouve, comment on peut savoir que tout le reste va dans le bon sens, c'est encore des notions sensorielles auxquelles on fait appel.
Oui, c'est peut-être entre autres. Si, par exemple, je lui fais un test et je lui pose des questions en mathématiques, il me répond bien, peut-être ça aussi, c'est une preuve qu'il a retrouvé ses esprits.
Mais voilà, exactement.
Mais la Gemara parle, pourquoi la Gemara parle de manger? Parce que c'est le plus près à vérifier.
Parce que c'est ce qu'on est en train de le faire, on est en train de le réalimenter.
Maintenant, est-ce qu'il est obligé d'être capable de parler? Imaginons, il n'arrive pas capable de parler, mais il fait des mimiques pour savoir si le plat il est bon. Quand on lui donne un bon plat, il est content. Et quand on lui donne un mauvais plat, il fait une grimace. Mais il n'arrive pas à parler. Est-ce que ça veut dire déjà le retrouver, ces esprits?
Ouais, le moyen de communication entre deux individus, c'est le dibour, ce n'est pas autre chose. Hein. Sauf si Chas v'Shalom, il a un problème. Donc, voilà, a priori.
Donc, s'il ne sait pas parler, il faut continuer à donner à manger. Donc, il ne sait pas parler, vous dites qu'il faut continuer à donner à manger.
Non, on voit bien s'il retrouve la vision, on lui met la main devant la figure ou bien qu'on lui envoie la main et il a l'impression de recevoir un coup de poing, il va tout de suite réagir en mettant sa main. Donc, ça veut dire que là, il est mafrine. Après, qu'il ne retrouve pas la parole, ça peut arriver que des fois, dans des moments de choc émotionnel, quelqu'un ne retrouve pas la parole tout de suite. Hein. Ça aussi, ça arrive.
Moi, je voudrais rajouter, si vous permettez, c'est que lorsqu'on a parlé tout à l'heure de malaise vagal, effectivement, le sujet, il est prêt de perdre connaissance. Quand il perd connaissance, il ne vaut plus rien. Hein. Bon, le sucre, ce n'est pas le traitement du malaise vagal, c'est de lui donner des claques, de le stimuler sensoriellement pour qu'il se relève. Comme disait hier Bukovza, il faut lui lever les pieds, le mettre par terre, lever les pieds pour qu'il y ait un retour veineux sur le cerveau. Et bon, après, on lui donne du sucre parce que statistiquement, et en plus, il est à jeun, on peut penser qu'il y a un rapport avec une hypoglycémie éventuelle. Mais encore une fois, c'est un trouble qui vient d'une façon brutale. Et à ce moment-là, ce sujet est perturbé, il ne voit pas très bien, il se sent mal, il est couvert de sueur ou quelque chose comme ça. Et donc, on lui donne à manger en disant certainement qu'il y a une relation avec le jeûne.
D'accord, oui, c'est vrai, parce que jusqu'à maintenant, il ne nous a pas fait le malaise, il le fait pile qui pour. Donc ça, c'est la logique. Étant donné que c'est un monsieur qui se porte bien, on n'a pas entendu de lui ni avant-hier, qui fait un malaise, qui ne va pas bien. Donc, si ça arrive pile qui pour, donc effectivement, la première logique dit que c'est lié avec le manque de nourriture.
Oui, mais le type qui fait un malaise vagal, il a pas eu la perte de la vue, je ne pense pas.
Ça peut aller jusqu'à la perte de la vue.
C'est rare, non?
Il tombe dans les pommes, quelque chose comme ça, oui.
Si, on voit tout noir, Hervé. On voit tout noir.
Ouais.
Mais moi, je pense, vagal, excusez-moi, juste… Oui, on voit noir. Mais je pense qu'en fait, des fois, la faim, ça entraîne vraiment une migraine intense et on peut plus rien faire. On voit très mal. On est même obligé d'être dans une pièce sombre. Si on supporte pas la clarté, ça m'est déjà arrivé une fois après un somme, à la fin, je pouvais plus être dans une pièce éclairée. J'étais obligé d'être dans une pièce noire. Donc, je pouvais même pas. Si on montrait, si tu vois bien ou tu vois pas bien, je pouvais même pas le dire.
Mais ça, ton expérience, elle colle pile à ce qui est marqué dans la Gemara, alors. Alors, on a trouvé, alors on vient de détecter, tu dis que quoi? Qu'à cause du tsom, tu avais quoi? Une migraine?
Je dis, vers la fin du tsom, j'ai eu une très, très grosse migraine, très forte, vraiment très, très forte, la tête qui va… Et je voyais moins bien et j'étais obligé d'être dans ma chambre à coucher, tout était, les volets fermés, tout fermé, je ne pouvais pas avoir de clarté.
Alors là, la Gemara s'éclaircit alors. Alors la Gemara, eh bien c'est ça le truc. Alors on va dans une chambre obscure, on lui donne à manger. Maintenant je veux savoir si ses yeux ils voient bien, mais comme il est dans la chambre obscure, on ne sait pas s'il voit ou pas. Donc c'est d'après le goût. Eh bien, attends, alors, Micharzo Bulmos, ça s'appelle Micharzo, une, comment tu appelais ça? Une migraine? Docteur Oudi, qu'est-ce que vous dites? Ça colle ou ça colle pas?
Oui, ça colle, ça peut coller. La seule chose, c'est que dans la migraine, a priori, on ne ressent pas un besoin important de manger. Ça, c'est la seule chose qui ne colle pas.
C'est suite à la faim intense que j'ai eu cette migraine. C'est pas que j'avais un besoin de manger. Je pense que ma priorité, c'était plus de manger.
Et comment continuer ton expérience? Qu'est-ce que tu as fait?
Non, c'était la fin. Je suis resté, j'ai attendu que ça passe. Et après, un café à la fin du Tson, et c'était fini.
Mais c'était le café qui t'a remis les esprits ou c'est tout seul, c'est passé?
Petit à petit, c'est pas passé d'un coup. Ça a mis des heures à finir la migraine. De moins en moins, quoi. À la fin, c'était fini.
En tout cas, son histoire, ça marche comme le Meiri.
Qu'est-ce qu'il dit, le Meiri, rappelez-nous?
Le Meiri, il dit que ça se passe dans l'obscurité. Il est dans le noir.
Alors, d'après le Meiri, tant que ce qu'il dit Philippe, eh ben c'est ça. Donc, c'est une migraine ophtalmique. Mais il y a plusieurs migraines ophtalmiques, non, docteur?
Migraine ophtalmique, ça veut dire juste une maladie, on va dire, vasculaire du cerveau qui donne des troubles visuels. Donc, c'est très vaste. C'est très vaste. Ça peut être provoqué par l'hypoglycémie, oui. C'est possible, oui. Mais la seule chose, c'est boule mousse. Le mot boule mousse, pour moi, c'est un symptôme de quelqu'un qui demande à manger. Et ça, dans la migraine, en général, ils demandent tout sauf à manger. Ils veulent juste coucher et dormir.
Mais chez Philippe, c'était provoqué par manque de nourriture. C'est arrivé Kippour, c'est pas arrivé un autre jour. Donc, c'est une migraine provoquée par un manque de nourriture.
Par l'hypoglycémie, oui.
Merci là, mais moi, mon épouse est migraineuse et quand elle a les migraines fortes, elle a besoin de se reposer, mais après, elle a très faim. Elle devient boulimique alors qu'elle est mince. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être l'exception à la règle, mais elle a besoin de manger tout ce qu'il y a. Voilà.
D'accord. Bon, d'accord. Alors on va continuer. Peut-être on est sur la bonne route, peut-être on est dans la bonne direction.
Alors on continue avec Marin. Excusez-moi, le rabbin là que je vous ai cité tout à l'heure, il dit que c'est le mot boulmous, ça vient du grec, de l'origine grecque, de boulimie. Et il y a deux sortes de boulimie. Il y a la boulimie où il faut tout de suite vite manger et ingurgiter le plus de nourriture possible pour que ça puisse passer. Ou alors une boulimie léate-léate, c'est-à-dire on mange petit peu par petit peu. Ce qui permettrait de dire que voilà, il a été atteint de ce symptôme-là, de l'hypoglycémie qui s'appelle le boulmous, et qu'il a eu une envie pressante de manger, pas une envie, c'est un besoin, picouard nefèche carrément, parce que sinon ça peut avoir une issue fatale s'il ne mange pas. C'est pour ça que les rabbins, ils ont même autorisé à ce qu'ils mangent même de la viande de taref.
Oui, bien sûr, on a mangé parce qu'il est en danger, bien, c'est évident. Seulement, la question, elle est boulmous, il a très faim, ça on a bien compris, mais comment c'est lié avec l'histoire des yeux? D'accord, nos yeux commencent un peu à s'éclaircir. D'accord. Alors, Hazak, on va continuer la Gemara. Donc, on est troisième ligne après la Gemara, d'accord? On va continuer. Alors, deuxième ligne après la Gemara. Tano Rabbanan. Misha achzo boulmous. Un homme qui s'est fait attraper un boulmous. Machilinoto hakal hakal. On lui donne à manger léger, léger. C'est-à-dire quoi? Des interdictions légères. C'est-à-dire, si on a quoi donner manger cachère, on lui donne à manger cachère. Et si nous n'avons pas de produits cachères, que des produits pas cachères, eh bien on lui donne des produits pas cachères. Mais dans les pas cachères, il y a différentes catégories. Il y a des choses légèrement pas cachères, il y a des choses lourdement pas cachères. Donc on dit, ma'achilinoto hakal hakal. On lui donne, on essaye d'abord de donner ce qui est le moins grave, halachiquement parlant. Tevel ou nevela. Si nous avons le choix, pour lui donner du tevel ou de nevela. Alors, Machilinoto Nevela, on lui donne à manger de Nevela. Pourquoi? Parce que la Nevela, c'est simplement un lave. Manger un morceau de Nevela, c'est un lave. Et Tevel, c'est Hayav Mitabede Shemaim. Le quoi, c'est intéressant. Les Tevel et la Nevela ne sont pas les mêmes genres. Nevela, c'est de la viande. Et Tevel, c'est forcément de céréales. Fruits, légumes ou céréales. C'est-à-dire que le médecin dit, il peut manger ça ou manger ça. Les deux, ils vont lui ramener ses esprits. Alors, nous choisissons selon ce que la halakha dit. Donc, le tevel, c'est grave. Nevela, c'est moins grave. Donc, on choisit la nevela. Tevel ou nevela, machinoto nevela. Maintenant, tevel ou shvi'it. Si on se trouve tevel et shvi'it, où on se trouve tevel ou shvi'it, shvi'it. Entre tevel et shvi'it, on choisit shvi'it. Shvi'it, c'est moins grave. Shvi'it, c'est les fruits de Shemitah. Manger des fruits de Shemitah après le Zman Habi'ur, c'est une interdiction, mais c'est une interdiction légère. Et par contre, Tevel, c'est Rami Tevel des Shemam, donc c'est beaucoup plus grave. Donc, on donne à manger Shvi'it. Maintenant, Tevel ou Trouma. Ah, Tevel ou Trouma. Tevel, c'est Rami Tevel des Shemam, et Trouma pour un Israël. Trouma pour un Israël. Quelle est la punition pour Trouma pour un Israël? Est-ce que c'est Mitabé des Shemaïm ou c'est Karet? C'est pas Karet, c'est Mitabé des Shemaïm. Donc, les deux, c'est Mitabé des Shemaïm, Tevel ou Trouma. Tanaïhi, là, il y a Machloke Tanaïm. Qu'est-ce qu'il est pire? C'est Tanya, quand on avait vu. Machilinoto Tevel, Vein Machilinoto Terouma. Ben Tema, Omer, Terouma, Velo Tevel. Une Machloke. Alors, Amar Rabba, Rabba il dit, Heichet de Efshar Bechulin, si on peut lui donner manger Chulin, du coup la Meloplige, eh bien, Vadaï, on lui donne de Chulin. De Metaknin Alei, ou Maspin Alei, on peut arranger, ça veut dire quoi? Tu as du Tevel, tu n'as qu'à prélever la Trouma, quel est ton problème? Il a besoin de manger combien? 100 grammes. Et combien du Tevel j'ai? J'ai 150 grammes. Eh bien, j'enlève la trouma et après, je transforme les tèvres en choulin. Alors, voilà, il faut le faire. Si on peut s'arranger pour transformer les tèvres en choulin, on fait le tikkun, c'est-à-dire on prélève la trouma et maaser, on maspine les après on le donne à manger choulin. Dans quel cas c'est la machloket, mais de l'eau efchar choulin. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que le médecin dit il veut manger 100 grammes. Et moi, j'ai que 100 grammes. Donc, si j'enlève maintenant la trouma, il va manquer. Comme il va manquer, ça ne marche pas. Donc, je lui donne à manger Tevel.
Ah, excusez-moi. Est-ce qu'on a le droit de prélever pendant Yom Kippour?
Prélever Yom Kippour, c'est un issur de Rabbanan.
D'accord.
C'est un issur de Rabbanan. Et ici, on parle des issur de Raita. Donc, mieux vaut faire un issur de Rabbanan pour ne pas transgresser un issur minatora. Alors, Mars Avar 1, il dit Tevel Chamour. Tevel, c'est plus grave. Ou Mar Savar, Trouma Chamoura. Alors, pourquoi? Mar Savar, hein, il dit Tevel Chamour. Pourquoi Tevel, c'est pire? Ah, parce que c'est pas tellement grave que Trouma, parce que Trouma chazi le Kohen. Parce qu'un Kohen, il peut manger Trouma. Parce qu'un Kohen, il peut manger Trouma. Donc, même un juif qui mange, c'est pas si grave. Aussi, le Chamit Abbé des Chamaïm. Mais c'est moins grave que Tevel. Tevel, c'est interdit à tout le monde. Il n'y a aucun juif qui a le droit de manger Tevel, ni le Kohen, ni l'Israël. Donc, comme c'est une avéra qui concerne tous les juifs, elle a plus du poids que l'histoire de Trouma pour Israël, qui ne concerne pas tous les juifs, qui ne concerne que l'Israël et pas le Kohen. Omar, ça va, c'est un chidouche. Normalement, c'est un lave. Pour un Israël, manger Trouma, c'est un lave. Et Chayav Mitabé des Shemaïm, mais Tevel, c'est la même chose. Mais quand on doit choisir entre les deux notions, on dit un issur qui concerne tous les juifs. Ou un issur qui ne concerne pas tous les juifs. Alors, ce qui concerne tous les juifs, il est plus grave. Donc, on choisit plutôt la trouma. Alors, aval terouma, chazi le kohen. Omar Savar, l'autre réponse, trouma chamoura. Trouma, c'est pire. Aval tevel, efshar le tikune. Ça veut dire, le tevel, il est moins grave d'après lui, parce que tu vois bien qu'on peut transformer le tevel en chouline. Le fait que là, on a une possibilité de transformer le tevel en chouline, donne au Tevel un caractère moins grave. Donc, c'est mieux choisir de donner à manger Tevel parce que ce n'est pas absolument interdit, parce qu'il y a une possibilité de la mettre à Ken. Alors, la Gemara continue.
Excusez-moi, oui. on va lui donner à manger de quelle manière? On va lui donner à manger petit peu par petit peu ou il va manger d'un coup? Parce que s'il mange d'un coup, une grosse quantité, je veux dire, à la limite, vaut mieux lui donner quelque chose de plus chamour. Si par exemple, pour celui qui pense que la trouma, c'est plus chamour, vaut mieux lui donner une fois une grosse quantité de trouma que plusieurs fois un ingrédient qui est un cas moins grave que moins. Si par exemple la trouma c'est le plus hamour, vaut mieux lui donner une trouma d'un coup, qui mange d'un coup la trouma, que plusieurs fois du tevel.
Attends, avant d'arriver à ta question, je vais poser ta question autrement. Est-ce qu'il y a une différence si un homme il mange lentement ou il mange vite d'un coup? Est-ce qu'il y a une différence? Un homme qui mange Kippour, il mange d'un coup ou il mange lentement? Est-ce qu'il y a une différence?
Une différence
de... vous parlez.
Dans la punition?
Dans la halakha, oui.
Je pense qu'il doit avoir peut-être une... Je ne sais pas. Alors,
s'il mange torque des dibour, s'il mange torque des dibour, il est chayav qu'il mange d'un coup ou qu'il ne mange pas d'un coup. Les sources de manger kotevet. Kotevet, c'est d'un chilat pras. Si tu le manges d'une fois ou deux fois ou trois fois, c'est exactement la même chose. Si maintenant, il mange moins que le il mange moins que kotevet ou d'un chilat pras, alors là, il va diminuer l'interdiction. Alors, est-ce que Kippour, nous sommes obligés de lui donner à manger toujours? On va dire que Kdechelet Pras, c'est 3 minutes, disons. Et on va dire que Kotevet, le volume de Kotevet, on va dire, je ne sais pas quoi, on va dire 50 centimètres cubes, disons. Bon. Alors, est-ce que maintenant, pour lui donner à manger, on lui donne 40 centimètres cubes et on attend 3 minutes? Après, on lui donne encore 40 centimètres cubes et on donne 3 minutes? Est-ce que chaque fois on fait comme ça pour diminuer les sources de raïta? Ou est-ce qu'on lui dit, on donne d'un coup? Ça veut dire quoi d'un coup? Un coup, je lui dis, on donne à manger un, côté V2, côté V3, côté V, même dans l'espace, ça ne change pas. Ça, c'est la question qu'il faut demander. Pas vis-à-vis des deux interdictions. Je ne parle pas maintenant de Tevel et Trouma, ça ou ça. Ça, c'est la Gemara. Toi, tu as parlé d'une manger d'un coup ou de manger lentement. Alors, j'ai défini le sens de ta question. C'est même pour les aliments qui sont cachers. Même quand il lui donne à manger cachère, est-ce que je dois lui donner peu à peu pour espacer, pour diminuer l'interdiction minatoire?
Si c'est possible, c'est mieux diminuer sur une longueur.
Alors, d'après ma mémoire, il faut vérifier ça. Et il y a une Gemara qui parle de donner lentement, mais la Gemara ne parle pas de fourrage pour Yom Kippour. La Gemara ne parle pas plus de fourrage pour Yom Kippour. C'est un même malade qui a besoin de manger, mais pas Kippour parce qu'il a faim. Il a besoin de manger. Et il a besoin de manger chazir. Un médecin a dit qu'il a une maladie, la seule solution, c'est de donner à manger chazir. Alors ça, c'est une Gemara me fourrachet qu'il faut toujours donner. On a un autre temps, donc on diminue les sources. Ça, c'est pas soute. Mais Yom Kippour, c'est pas moi qui me fourrage dans la Gemara. Alors, il me semble que le Shulchan Aruch, c'est oui marqué qu'on donne moins que Shiur. Et après, un bris qui dit que le fils Rambam, non. Que Yom Kippour, il n'existait pas ce din. Il me semble
que je vais vérifier. Le Ran, il dit, je vous lis en hébreu ce qui a marqué. Et il est à Sauver chez Adif, l'Avor Alissour Hamour Paramachat, mi l'Avor Alissour Kal, mispar Paramaim.
Mais je ne comprends pas ce cas. C'est quoi, pas maïmo une fois? J'ai rien compris.
Eh bien, petit peu par petit peu.
Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit pas maïm, ça ne veut pas dire yoter mechil aspras. Je ne comprends pas. Tu avalons une fois, tu avalons deux fois, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Eh bien, il dit à plusieurs fois. Ça veut dire que vaut mieux manger une fois une grosse quantité, donc kédé, comme vous avez dit, kédé achil aspras, et que manger plusieurs fois des petites quantités qui vont dépasser, je ne sais pas.
Voilà. Je ne sais pas, je ne connais pas ce que je veux dire. Je ne comprends pas le cas, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais...
Peut-être qu'il veut dire que si vous prenez la prasse, il va manger un chihuahua, autant le manger en une fois que de le manger, par exemple, en deux fois. Parce qu'en deux fois, il a fait deux transgressions de l'archila.
Manger une fois ou deux fois, quelle est la différence? Je n'ai pas compris.
Eh bien, il fait deux transgressions de l'achila, puisque l'achila, c'est de mâcher où? Donc, s'il mange, par exemple, une moitié de kazaït, et il est obligé de remanger ensuite une moitié de kazaït, et au total, il aura mangé kazaït, béré, achila de pras, eh bien, celui qui mange ça en une seule fois, il n'a transgressé la achila qu'une seule fois.
Je ne pense pas que c'est comme ça. Okay. Vous avalez un kezaï dans un coup, on avale deux demi-kezaïtim dans deux coups, mais que des chilaspras, c'est exactement la même chose.
Et on avale un kezaï d'un seul coup, on avale deux kezaï d'un seul coup, c'est quoi? C'est pareil. Ou on fait deux péchés. On a mangé deux fois un kezaï.
Répétez votre cas, je pense. Répétez, excusez-moi.
On mange un kilo de viande, on mange 500 grammes de viande ou un kilo, c'est le même péché?
Non, ça c'est pas le même péché. Ça c'est vraiment pas le même péché. On mange un kezaït ou on mange deux kezaïtim, c'est plus grave, ça c'est la Gemara Menachot. Un homme qui a besoin, quand il faut arracher les figues, la fameuse Gemara, quand il y en a une branche avec trois figues ou deux branches, sur chaque branche il y a une figue, et il a besoin de deux figues. Est-ce qu'il est mieux d'arracher les deux figues de deux branches ou est-ce qu'il est mieux d'arracher une branche de trois figues? Ça, c'est le fameux machloket là-bas dans la Gemara.
Celui qui mange deux kazaïtes ou trois kazaïtes, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Mais ceux qui mangent un kazaït en un coup ou ils mangent deux demi-kazaïtes dans deux coups, d'orque des chilaspras, ça, c'est exactement la même chose.
C'est la même chose pour la Avera au total, mais en réalité, il aura transgressé deux fois le Issur Achila. Puisque le Issur Achila est Bemachéou. Donc, lorsqu'il mange le premier demi. Moi, j'essaie d'expliquer Loran. Il mange un demi-kazaït. Eh bien, il a transgressé déjà un Issur de Achila. Il mange ensuite l'autre demi-kazaït et encore. Transgresser un deuxième issour. Donc, Laurent dit, s'il doit manger au total, vaut mieux qu'il transgresse un seul issour et qu'il mange le kazaït en entier une fois.
Il y a le Shulchan Aruch, Siman Tariach,
le Saïf Zayin. Je suis en train d'ouvrir. Voilà.
Le Saïf Zayin.
Voilà, je le lis. Alors, Keshema Achilin, ah, je lis. Keshema Achilin est à Ubarot, quand on donne à manger aux femmes enceintes. Ou est acholé, ou le malade. Machilin oto ma'at ma'at. On lui donne à manger peu. Kedei shelo yitztaref le shi'ur. Pour que ça donne pas un shi'ur. Ça veut dire quoi? On lui donne moins que kotevet. Biyoter bekdir chadfas. Ikar c'est pour ça. Machilin oto kishnei shlishei beitza benonit. On lui donne à manger deux tiers de neuf. Viyishu kedei achilat arba betzim. Et on laisse traîner que la laps du temps. Il faut manger quatre beitim. Et comme ça, il aura diminué les issour. Voilà. Il ne fait pas une différence en une fois, en deux fois, c'est aucune différence. C'est que la question, elle est, il mange un kotevet dans un laps de temps qui est au terme, mais qui n'est pas pras. Vashtia, et vis-à-vis du boisson, on avait déjà dit les boissons, les sources melolugmav, et vashtia, qui est du coup, il faut vérifier le malade lui-même, parce qu'on avait dit que pour la boisson, ça dépend individuellement. On lui donne à boire un peu moins que ce shi'ur. Et on laisse aussi traîner pendant cette boisson plus qu'arba betzim. Ça, c'est la fameuse machloket rishonim vis-à-vis d'une boisson. Est-ce que la mesure, la laps de temps, c'est shi'ur kedei shtia trevit? Quand la Torah, elle a interdit de boire. Elle a interdit de boire pour un nazir du vin, ou elle a interdit de boire une soupe de chazir, etc. Vis-à-vis des boissons, on dit que quoi est-ce que le shi'ur, que ça s'appelle une achila, c'est kedei shutia très vite, le laps du temps qu'on a besoin normalement pour boire un revit, ou est-ce que le shi'ur de la Torah, c'est kedei achilat pras, comme manger quatre œufs? Ça, c'est la machloket rishonim. Donc, vis-à-vis de Kippour, il y a l'interdiction, la grosse interdiction mina Torah de boire, c'est le shi'ur, le melolugmav. Alors, est-ce que ce melolugmav, si on a dépassé le shi'ur, kedei shtia très vite, mais c'est dans un laps de temps moins que kedei achilat pras, ça c'est un machloket ou pas. Donc, si on peut boire le shi'ur de kedei melolugmav dans plus du laps de temps que kedei achilat pras, ça c'est le mieux. Mais s'il faudra pour raccourcir plus, on raccourcit plus, mais au moins, si on peut faire attention de ne pas le faire, mais que déjà tient très vite, parce que s'il va le boire, déjà tient très vite, donc après tout le monde, il aura fait le vrai issur Torah. Donc si on peut éviter ça, il faut éviter ça. Si on évalue, si on traîne trop le laps du temps, ça ne suffit pas pour lui. Oshekhole Omerken, où le malade dit non, j'ai besoin de manger vite, je ne peux pas attendre tellement beaucoup. Oshenestabku Bedavar, on a un doute s'il a besoin de manger vite ou pas. Dans ce cas-là, Machilin Maskinoto Kolsoko Miad, dans ce cas-là, on ne fait pas des histoires. Ça, c'est ce qui est marqué sur le Shulchan Aruch. Et sur ça, d'après un brisque, il dit que le fichier Tataram Bamnor, et Yom Kippour, il n'y a pas cette loi. Cette loi de Pechot Pechot, on dit pour un homme qui n'est pas affamé, pas Kippour. C'est pour Khazir, il doit manger Khazir. Là, on dit cette halakha, mais Kippour, cette halakha n'existe pas. Mais pourquoi pour Kippour, cette halakha n'existe pas? Alors, sur ça, il y a toute une philosophie, dit Reb Chaim dessus, pourquoi c'est comme ça. Même, il dit, même si on peut traîner, et il n'est pas en danger, parce que s'il est en danger, il n'y a pas de Shulchan Aruch, il est d'accord. Le Shulchan Aruch dit que si on peut traîner en plus que Techilas Pras, il faut traîner pour diminuer les sourds. Et Reb Chaim dit que non, Yom Kippour, il n'y a pas ce din. Pourquoi il n'y a pas ce din? Ah, ça, il faut voir pourquoi. Il y a une philosophie dedans. Alors, on va continuer. Alors, on est à Moudbet. Alors, la Gemara demande, « Efshar becholin pshita » Qu'est-ce que la Gemara nous a dit? Que s'il a du tevel, on lui donne à manger du tevel. Mais si on peut transformer le tevel en quoi? En chouline? Eh bien, il faut transformer en chouline. Comme ça, on diminue les issos. Alors, la Gemara demande pshita. Mais quel est le chidush? Efshar bechouline, pshita. Si on peut transformer les tevel en chouline, mais évidemment, on est obligé de transformer en chouline. Mais quel est le chidush? Pourquoi tu me racontes ça? L'otzricha b'shabbat. On parle ici que Shabbat. Que le Yom Kippour, il était Shabbat. Et alors? Parce qu'il y a un issur de prélever Terouma Shabbat. Je ne sais pas pourquoi la Gemara est obligée de dire Shabbat, c'est assur de prélever, même Kippour, c'est assur de prélever. Les issur de prélever Terouma, c'est Mishum Tikkun. Parce qu'avant, c'est interdit de manger, après, c'est permis de manger, donc c'est un Tikkun de Rabbanan. C'est un Tikkun de Rabbanan. C'est autant interdit Kippour ou Shabbat. Pourquoi la Gemara dit? On parle Kippour, il est tombé Shabbat. La Gemara aurait pu dire aussi, le Yom Kippour, il est tombé Yom Kippour. Ça, c'est... Bon,
Shabbat, c'est Minat Torah, Shabbat.
Et Kippour, c'est Mita Rabbanan. Elle est bien bonne, celle-là.
Non?
Chez vous, le Yom Kippour, c'est Mita Rabbanan.
De prélever la Trouma, de prélever Tevet.
Mais peut-être? Shabbat aussi, c'est que Mita Rabbanan. Prélever la Trouma, Shabbat. Tevel le Shabbat, c'est assourd de la banane. Mais la Torah, il ne fait rien de mal. Simplement parce que c'est assourd de manger. Et en prélevant la Terouma, c'est permis de manger. Donc, ça s'appelle un tikkun. Donc, c'est un tikkun de la banane. Et le Kippour, Beyom Shabbat. Pourquoi la Gouane nous dit que Yom Kippour est tombé Shabbat?
On avait vu la même
chose. Yom Kippour, il est tombé Yom Kippour. Moi, je te propose comme ça. Quoi?
On n'avait pas vu la même chose. On avait vu cet argument de la Gemara, on l'avait déjà vu autre part. Je crois que c'était dans Otsa. Et on s'était posé la même question. On n'avait pas trop.
On a la même question, d'accord. On est resté le même imbécile aujourd'hui qu'à l'époque, d'accord. Qu'est-ce que dit Rashi? L'otzricha b'shabbat, shafilo hu shabbat, même si le Yom Kippour tombe Shabbat, shasur l'afrish truma ou ma'aser, il est interdit de prélever truma ou ma'aser, l'afrish ouha, comme il faut séparer, on lui donne pas manger tevel. Alors la Gemara demande, b'shabbat nami pshita, il tomit rabbanan hu. Même Shabbat, c'est pas chut qu'on prélève. Étant donné qu'il est prélevé ce que Midra Banan, et Tevel, c'est assourd de manger Mina Torah. Donc, si on a un Issour Torah, un Issour de Rabanan, évidemment, on transgresse l'Issour de Rabanan par l'Issour Torah. Donc, évidemment, il faut prélever la Trouma. On dit Acha Maïskinan, tu sais dans quel cas on parle, Batit Che Enunakouv. On parle ici que le fruit qui a poussé, il est dans un pot de fleurs qui n'a pas de trous. Donc, un pot de fleurs qui n'a pas de trous, où tout ce qui pousse dedans n'est pas Khayaf. Minatora Mishum Tevel. Ce Tevel, c'est que des Rabbanan. Minatora, c'est seulement ceux qui poussent par terre en Eretz Israël. Ceux qui poussent dans un pot de fleurs sans trou, n'est que des Rabbanan. Nimsa, que s'il va manger Tevel, il transgresse un issur de Rabbanan. S'il prélève la Terouma, c'est un issur de Rabbanan. Donc, des Rabbanan pour des Rabbanan. Donc, j'aurais pu croire, mieux vaut donner manger Tevel, à Mashmalan, que l'interdiction de prélever la Terouma, elle est moins grave. Mar Savar, un, il dit Tevel Khamour, donc un temps, il pense l'isotèbe et l'épire, donc mieux vaut de prélever. Alors, non, non. Ça, c'est terminé. Donc, ça, c'est terminé. Lisons Rashi. Batsit she'eino nakuv. Le tèbel shelo midrabanan. Le tèbel c'est que midrabanan. Ou shvut de hafrashat ma'asrot b'shabbat. Aussi, c'est de rabanan. Et hashme'inan, maintenant, le chachamim m'a fait enseigner. Shidache hashvut. On va repousser les shvut de paprel v'etrouma. Velo yachilu tèbel. Il ne faut pas lui donner à manger tèbel de rabanan. Pourquoi manger tèbel midrabanan, c'est pire que l'interdiction de prélever trumot ou ma'asrot? Pourquoi? Parce que manger tevel, il y a un recherche de hâte ou le mishrena met tevel de raïta qui a égabna. Parce qu'entre tevel midrabanan et tevel minatora, la différence, elle est légère. Ça, c'est dans un pot avec trou, ça, c'est un pot sans trou. Les gens, ils peuvent se tromper. Si on va lui donner un manger tevel avec dans un atiché et non akouf, demain, il va lui donner batis nakouf. Donc, comme la différence, elle est légère et on peut arriver facilement ici au Torah, donc, c'est mieux qu'il faut éviter de manger ce tevel. Par contre, transgresser l'interdiction de prélever la trouma de Masrot, là, c'est un issur qui est légère. Il n'y a pas d'issur de raïta qui tourne autour. Et donc, c'est mieux de, donc, c'est mieux de quoi? De prélever. De prélever. Alors, la Gemara nous dit maintenant, on revient à ce qu'on a dit avant. Mar savar tevel chamoura, mar savar trouma chamoura. On avait dit que si on se trouve devant tevel ou devant trouma, il faut choisir une des deux, et les deux, c'est des interdictions de Chayav Mita Bedei Shamayim. Un dit, on préfère Tevel. Pourquoi? Parce que Tevel, c'est quelque chose pas si grave, parce qu'il y a une possibilité de prélever. Et l'autre dit, on choisit Trouma, parce que Trouma, c'est pas tellement grave, parce que c'est une interdiction qui ne concerne pas tout le peuple juif. Leïma, est-ce que nous allons dire Tanaï? Est-ce qu'on dit, en vérité, c'est une machloke Tanaïm? Non, pas cette machloquette. Pas cette machloquette. On va voir. On va voir. C'est une autre nekouda.
Quand il parle de Shabbat, c'est parce que peut-être qu'on ne parle pas de Yom Kippour, là. On parle en temps normal. Le gars, il a besoin, quoi qu'il arrive, de manger du taref. Et donc, on dit, voilà, c'est Shabbat. On ne parle peut-être pas de Yom Kippour.
Waouh, là, Hervé, il a tiré dans les mille. Il a raison, on ne parle pas Kippour. Ici, on ne parle pas Kippour. Il a raison. Toute la braïta, depuis la deuxième ligne après la Gemara, Tanor Rabbanan, Mishach Zo Boulmous, quelqu'un qui s'est attrapé un boulmous, on lui donne à manger Hakal Kal, on ne parle pas Kippour. Et d'après Abraham Vadaï, d'après Abraham Kippour, ça... Ah non, Abraham il parle. Il parle vis-à-vis des laps du temps. Il ne parle pas vis-à-vis des isourim qui sont plus légers. Oui. En tout cas, Mishach Zopoulmos, on ne parle pas Kippour. Il a raison, Hervé. On parle toute l'année. Un homme pendant l'année qui est dans un danger et le médecin il dit, vous êtes obligé de manger un certain produit et ce produit n'est pas cachère. Alors là, on dit, on diminue, on choisit toujours l'interdiction la moins légère. On ne parle pas Kippour. On parle lundi. Ah, et un lundi. Alors, un lundi ne peut pas tomber Shabbat. Attends, un lundi ne peut pas tomber Shabbat. Non, mais le Shabbat peut tomber Shabbat. C'est-à-dire, au début, on pensait qu'il s'agit lundi. Et il a de quoi? Il a du Tevel. Et on veut savoir, est-ce qu'on peut le transformer en Khoulin? La Gomandi Vadaï, on peut transformer. Il faut transformer en Khoulin. Il ne faut pas donner à manger Tevel si on peut transformer en Khoulin. Alors, il y a l'autre riche, on parle Shabbat.
Mais Rashi, quand il dit chez Afidou ou Shabbat, donc Afidou, Yom Kippourin ou Shabbat, Rashi?
Quel Rashi vous êtes? Dites-moi.
Le premier, Rashi. Première ligne. Afidou ou Shabbat. L'autre Chab et Shabbat. Afidou ou Shabbat. Mashma, qu'on passe de Kippour et Kippour qui est Afidou Shabbat.
Non. Afidou Shabbat, même qu'à la faim, qu'il a besoin de manger la Trouma, même si c'est Shabbat, pas seulement si c'est Chol, on parle de Kippour, Bechlal. Au début, on croyait qu'on parle Chol, un jour de Chol. Il a besoin de manger Trouma pendant le jour de Chol. Maintenant, on dit, si c'est Chol, le Tevel, Vada, il faut faire Choulin. On parle, la fille, c'est Shabbat. C'est pas lundi, mais c'était Shabbat. Le jour de Shabbat, Vada, c'est pas chaud. On parle pas Kippour. Je me suis embrouillé avec mon Kippour, là. Alors maintenant, on va dire, Leimer Tanaï, de Tani, on avait vu. Mishenash Chonachash. Quelqu'un qui s'est fait mordre par un serpent. Corinne le refait, Mimakom le makom. On lui transporte un médecin d'une ville à l'autre. Alors ici, on parle Shabbat. Vous avez Rashi ici. Corinne Lorofé, on lui appelle un médecin de Shabbat. Parce que si ce n'est pas Shabbat, il n'y a pas de chidouche. Bien sûr, quelqu'un a un achash, il faut un médecin, ce n'est pas un chidouche. On parle Shabbat. Alors le médecin, il peut se déplacer. Ça veut dire que le médecin a le droit de faire le Shabbat pour soigner une morsure. Ou me karin lo atarnegolet. On lui déchire une poule. Tiens, on déchire une poule. On fait quoi avec cette poule?
Sur la plaie.
La tête à l'hamaka. On met une poule déchirée sur la blessure. Shuzuhir fuato. Ça, c'est la guérison. Une poule déchirée. Le gozizin lo est akrishin. On va couper pour lui du poireau. Rachidi la achilo. On lui donne à manger. Un homme qui s'est fait mordre par un serpent, il doit manger du poireau. Du poireau. Et on peut arracher de la terre, malgré que c'est Shabbat. Donc la première interdiction, c'est on transporte le médecin. Deuxième interdiction, on tue une poule. Troisième interdiction, on arrache du poireau du jardin. On marche autour, on lui donne à manger. Ventzerich la aser, on n'est pas obligé de prélever le maaser. Il peut manger même tevel. Ivre Rebi. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, lo yochalachi aser. Il dit non, il faut lui prélever le maaser. Alors, quelle est la machloquette? Est-ce qu'il est mieux de quoi de manger tevel et pas transgresser la vira de prélever le maaser? Ou est-ce qu'il est mieux de transgresser l'interdiction de prélever le maaser pour pas manger du tevel? C'est-à-dire, le choua, la machloquette ici, est-ce que manger tevel est pire que prélever le maaser ou prélever le maaser est pire que manger tevel? C'est ça la machloquette. Alors, avant, nous avons vu cette machloquette. Il est mieux de... Avant, on avait dit que Tevel est Trouma, mais si c'est Tevel, il faut manger Tevel et pas prélever Maaser. Le roi, ça dépend de cette machloquette Tanaïm, Rabbi Shimon.
On ne peut pas faire Tarat Nedarim et on lui donne ce qu'on veut à manger.
Je n'ai pas compris.
On n'avait pas vu hier que si jamais on faisait Tarat Nedarim, on peut rechanger le Tevel en rouline, on lui donne à manger, on change d'avis. On dit ça, c'est
le contraire, docteur Simoni. La Tarat Nedarim ne transforme pas le tevel en rouline, mais il transforme le rouline en tevel. La Tarat Nedarim, c'est dans l'autre sens, monsieur. Que si j'ai prélevé Trouma, si j'ai du tevel et j'ai prélevé Trouma, le fait que j'ai prélevé Trouma, ça rentre les autres roulines. Maintenant, si je vais faire Hatarat Nedarim, je vais enlever la Hafrasha Terouma. Donc, tout il se transforme en Tevel. Votre train, il roule à Verlon. Si vous faites Hatarat ici, c'est encore Tevel. Là, c'est là. Est-ce qu'on le mange à titre de Tevel ou est-ce qu'on fait d'abord Hafrasha? Ici, il n'y a pas de Hatarat Nedarim.
Alors, au médecin. Le fait d'appeler le médecin, c'est quoi le problème? Il m'a comme c'est un problème de hérouve.
Elle est la avira d'apporter le médecin. Soit qu'on parle, il vient mechutz le troum, soit qu'il vient avec un Mercedes. À l'époque de moi, il n'existait pas Mercedes, mais il existait des chevaux. Soit qu'il vient avec un cheval, il s'assoit dans une carrosse et le cheval va le tirer. Où il va marcher mechutz le troum. Il y a une autre époque, il vient en voiture. Donc, il y en avera. D'accord. Alors, comment on répond? Afilotei me rebi. On peut dire que ça marche même comme rebi. Atkan lo komi rebi hatamelin maaser yerek de rabanan. Là-bas, il s'agit du poireau. Le poireau, c'est des légumes. Et les légumes, c'est que asourmi de rabanan de le tevel. Donc, Rebbe pense, hier, qui est mis de Rabbanan, donc l'isotèbre n'est pas très grave. Alors, mieux vaut quoi? De prélever le maaser. Pourquoi Rabbi dit qu'il faut prélever le Maaser? Non, Rabbi dit qu'on n'a pas besoin de prélever le Maaser. Parce que Rabbi dit, on prélèvera pas Maaser. Prélever Maaser, ça met de Rabbanan. Mais si je ne prélève pas Maaser, c'est Tevel, mais c'est que Tevel de Rabbanan parce que c'est des légumes. C'est-à-dire, d'après la Torah, l'issur de Tevel, il est seulement sur Dagan, Tirosh, Vietzhar. Dagan, c'est les cinq céréales. Tirosh, le vin, les raisins, le vin. Veitzar, c'est l'huile d'olive et l'olive. Ça, c'est Minatora. Tout le reste, c'est Midrabanan. Qui a instauré ça? Alors, Chizkia Melech, son Bédin, ils ont instauré sur les fruits d'arbres, mais pas sur les légumes. Et les Antiknesset Agdola, ils ont instauré après aussi pour les légumes. Alors, Abba Maaser Dagan, de Tevel de Raita, mais si ça avait été pas des poireaux, ça avait été Maaser sur Serek de Raita, puis les Rebbi Modés, qu'il faut prélever, même si c'est Atsitz Nenakouf. Dit Charit le Batsitz Nakouf, Nenakouf, Atelemech Batsitz Unakouf. Ça veut dire, blé dans un pot troué ou pas troué, c'est très proche de l'interdiction. S'il est troué, c'est Teve Minatora. S'il n'est pas troué, c'est Midra Banane. C'est facile à se tromper. Par contre, le poireau, qui est une légume, tout le monde sait que les légumes, c'est que de la banane. Donc, si on lui permet ceux de la banane, il ne va pas arriver à l'issur Torah. D'accord. Tano Rabanan, encore un petit morceau. Tano Rabanan. Misha Chazo Boulmous. On revient. Quelqu'un qui s'est fait attraper un boulmous, marine un auto de vache. On lui donne à manger du miel. Alors, ici, on parle quoi? On parle le jour de Chol ou on parle du jour de Kippour? Alors, si c'est Kippour, c'est une halakha. Sachez que s'il y a un poulmos, c'est bien de lui donner du miel. Si on va dire qu'on parle chol, donc ça, c'est un conseil. Peut-être on parle pendant la semaine, il a attrapé un poulmos, on veut savoir quelle est la meilleure des choses à donner à manger, on me conseille, marine un taux de vache, le mieux, c'est de donner du miel. Chol, mine, mitika, ou toutes autres choses. Ça peut être un conseil balement, même la semaine. Et Kippour aussi. Kippour, c'est une halakha qu'on lui donne à manger, mais mieux vaut de donner à manger.
Attraper Boulmous, alors ça ne dépend pas de la faim.
Qu'est-ce que vous dites?
Attraper le Boulmous, là, ça ne dépend pas de la faim. Ce n'est pas à cause du manger, puisqu'on en parle la semaine.
Les hypoglycémies, on revient. On est obligé de dire qu'il s'agit ici d'une hypoglycémie. Parce qu'on parle du miel, du sucre, et bien c'est clair qu'il s'agit d'une hypoglycémie. Le boulmous, c'est provoqué par une hypoglycémie.
Mais pas à cause de la faim, pas à cause du manger, à cause du sucre.
Oui, mais pourquoi il n'y a pas de sucre? Parce qu'il n'a pas mangé, Chacham de la Manishtana. Et comment on absorbe du sucre? Parce qu'on mange. Donc le fait qu'il n'a pas mangé, qu'il jeûne, c'est pour ça qu'il manque de sucre.
Jusqu'à maintenant, on a cru que c'était parce qu'il n'avait pas mangé tout simplement, tout Kippour. Mais là, on voit même la semaine, on peut l'attraper.
Mais pas manger, ça provoque quoi?
C'est que le problème du sucre, là, pour l'instant.
Mais toujours, c'est ça. Mais toujours pas manger. Le fait qu'on ne mange pas, que le ventre réclame de manger, ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas un danger. C'est une douleur. Un homme qui a faim, il a une douleur. Comme il a chaud, comme il a froid, mais ce n'est pas mortel. La douleur de la faim n'est pas mortelle. Ce que le danger... c'est le manque d'apport du sucre. C'est docteur, c'est évident, oui.
C'est le malaise.
Oui, une malaise par manque de sucre.
Exact.
Et c'est pour ça, la chatrila, on donne du sucre. Donc, si on va lui donner du sucre, on va lui donner des concombres. Le concombre, il a moins de sucre. Mais le maasé, c'est aussi le chiocotévet. Quand on dit... la grandeur d'une date, c'est soit concombre, soit la date, c'est toujours le chiour côté vet. Mais le maaser, ce qui sauvera plus la personne, quand on est en danger, normalement, on parle, il n'y a pas en danger. Un homme qui n'est pas en danger, il pourra on dit, il ne faut pas manger. Ceux qui mangent côté vet, il a calmé sa faim, c'est assourd. Pour le il faut se faire mortifier. Cette mortification, ce n'est pas le manque de sucre, c'est le manque de manger. Et n'importe quoi qu'on mange calme la faim. Donc, manger des champignons ou manger de miel vis-à-vis de Issour de Kippour, c'est la même parce que tu as calmé la faim. La Torah veut qu'on a faim. Donc, il ne faut pas calmer cette faim. Mais ici, on parle d'un homme en danger. Un homme qui a la faim n'est pas un problème de qualité de vie, de initem, de souffrance ou pas souffrance. Ce n'est pas une souffrance, il souffre parce qu'il a faim. Il est en danger. Le danger vient par manque de sucre. Et là, il faut lui donner manger du sucre. Il peut du danger concombre, mais le concombre ne va pas le sauver. Il a attrapé un boulmous. Il manque de sucre. Tu donnes des concombres. Ce n'est pas ça qui va lui donner du sucre. Il faut donner quelque chose qui a du sucre. Et là, on dit de vache. Misère ce boulmous, marine en taux de vache, du miel. Le cholminimitica ou d'autres choses sucrées. Chadvash, le cholminimitica, mais irin maor et nafseladam. On revient sur notre philosophie. Le miel, notre philosophie, la chose qu'on ne comprend pas. On revient quand le miel est tout ce qui est sucre, il met irin maor et nafseladam. Elle redonne la lumière aux yeux. La Gemara revient que le sucre donne la lumière aux yeux. On est de nouveau devant dans le cabinet de l'ophtalmologue là. On est retombé dans le cabinet là. On revient aux yeux. L'apport de glycémie redonne la vision. On dirait qu'à l'époque de la Gemara, une hypoglycémie provoquait une perte de vue. Alors, Vav Bishenra et le Davar, Zech le Davar, même qu'on n'a pas une vraie preuve du Tanakh, mais on a une petite allusion. Parce que quoi? Rouna ki oru enai, ki ta'amtima devashazé, Jonathan. Jonathan, il était dans le champ, il crevait de faim, et il a pris un peu de canne à sucre, comme ça le Pshat Pashut. C'est marqué, il a pris du dvash. Il y a deux Pshatim là-bas. Est-ce qu'il a pris du miel des abeilles, ou il a pris de canne à sucre? Rouna a regardé qui oro enai, mes yeux sont éclairés, qui t'a amti ma de vache, que j'ai mangé un peu de miel. Mai afa piche enrai le devar. Pourquoi tu dis que ce n'est pas une preuve? C'est oui une preuve. Pourquoi tu dis que ce n'est pas une preuve? Da tam lav boulmous arze. Là-bas, il ne s'agissait pas de boulmous. Mais il s'agissait de quoi? Stam, il avait faim. Un boulmous. Et mais il ne voyait pas bien avant. C'est vrai qu'il ne voyait pas bien avant. C'est sûr que le vache qu'il a mangé a lui donné une meilleure vue. Il avait moins bonne vue. Mais ce n'était pas un boulmous. C'était quoi?
Qui le marcha, il dit qu'il avait le boulmous.
Et la Gemara nous dit qu'il n'avait pas. Alors le marcha dit le contraire de la Gemara ou tu as mal lu le marcha? Le Gemara nous dit de Hatam lav boulmous arze. Là-bas, on parle que ce n'était pas une boulmous.
Donc, là, il dit Elou et Jésus boulmous, aya moutarlo, litan metadvash. Af imaya yodéa à la choua. Même s'il savait que son père, il avait fait le serment.
Là-bas, on parle qu'il n'y avait pas de boulmous. Qu'est-ce qu'il dit le marcha? Il dit ce que le Gemara dit. Là-bas, il n'y avait pas de boulmous. Le marcha, il ajoute. D'où le Gemara sait qu'il n'avait pas de boulmous? Peut-être il avait dit. La Gemara, elle est sûre et certaine qu'il n'avait pas de
boulmous. Aya moutarlo, j'ai mal lu.
Voilà. Là-bas, on parle qu'il n'avait pas de boulmous. D'où la Gemara sait. Parce que s'il avait un boulmous, dans ce cas-là, même s'il aurait su que son père, il a fait un chéran de ne pas manger contre le père, Shaoul, il a fait un chéran. Ceux qui mangent aujourd'hui, il sera condamné à mort. Il a fait un chéran. Mais si lui, il a un boulmous, il a un danger de mort, il a le droit de manger. Ah, pourquoi Shaoul, il a condamné à mort? C'est parce qu'il n'avait pas de boulmous. Mais quoi? Il avait un peu une faiblesse des yeux. Les yeux sont devenus un peu plus faibles. Il ne voyait pas bien, mais il n'avait pas boulmous, mais il voyait un peu moins bien. Il a pris le miel, il dit « Ah, je me sens super bien. » Alors, ils ont dit « Mais ton père, il a interdit. » Il dit « Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas que mon père est interdit. Si j'avais su, je n'aurais pas mangé.
Ah, » quel intérêt de ramener ça si ça n'a rien à voir avec notre sujet? S'il n'y a pas de boulmous, on s'en fout.
Non, on voit que le miel remet les yeux en marche. Il avait une baisse des yeux, mais pas au point d'être en danger de mort. Le sens de la Gemara, il est comme ça. il avait faim, il avait une hypoglycémie, mais il n'était pas en danger, mais il avait une hypoglycémie, il voyait moins bien. Il mangeait le miel, il voyait mieux. Maintenant, ceux qui ont boulmous, il est grave, il est en danger, alors il faut manger le miel. Et maintenant là-bas, ce n'était pas arrivé à boulmous. Peut-être qu'on sait boulmous, ce n'est pas le miel. C'est quand même un zécher là-devant. Je vois que ceux qui ont un demi-boulmous, le miel le sauve. Donc ceux qui ont un vrai boulmous, il s'avère aussi que c'est le miel la solution.
Donc ça rentre bien le pchat de dire que le boulmous, c'est une hypoglycémie alors. Parce que oui. Là, on dirait que c'est un stade intermédiaire. Il n'est pas rentré dans le boulmous, mais il était proche et ça lui a. Il avait quand même une petite faiblesse des yeux.
Oui, c'est ça qui est marqué. C'est ça que j'ai dit. On revient dans le cabinet des ophtalmologues, on revient. C'est l'hypoglycémie, elle est liée avec la lumière, avec les yeux. Sauf si on va dire que les yeux, c'est l'avdafka. Sauf si on va dire, mes yeux, ils voient mieux maintenant. Si on va dire, les yeux, c'est une image. Ce n'est pas les yeux, c'est la compréhension, c'est l'état général de me sentir bien. Peut-être il y a un autre sens ici, pas les yeux. Ça veut dire je me sens mieux. Peut-être c'est ça le pchat.
Mais dans ce cas-là, elle aurait rien à faire. Encore une fois, cette mara ici, cette braïta. Enfin, cette preuve, pardon. Si on, il ne s'agit pas d'un problème, mais juste d'une allusion à autre chose, il a compris.
Non, mais c'est ça le pchat ici aussi, le boulmous. Ah! Si je dis le Einav, c'est l'Avdafka, en vérité, on ne parle pas du tout des yeux. Ça veut dire l'état général, il se sent mieux. Pourquoi il se sent mieux? Parce qu'il a mangé. Il a mangé quoi? Du miel. Donc, c'est une preuve que le miel, c'est la meilleure solution contre l'hypoglycémie. En vérité, c'est juste. Le miel, c'est la meilleure solution contre le sucre, c'est la meilleure solution contre l'hypoglycémie. Bon, on va arrêter ici. Alors, 2 heures, Bézat Hashem. Kaltouf.
Ariel.
Oui.
Et juste une chose. Il faut savoir quand même que le sucre, c'est l'élément fondamental de toute cellule. L'énergie d'une cellule, c'est de glucose. Le glucose, c'est le sucre, c'est la décomposition du sucre. Donc, c'est pour ça que quand on parle du miel, c'est un sucre rapide qui est facilement dégradé au niveau du corps et qui peut être utilisé tout de suite par l'organisme. Donc c'est pour ça que ça engendre tous ces phénomènes-là. Et le fait de manger du miel, eh ben, tout de suite, il va retrouver l'organisme va retrouver de l'énergie, du glucose, il va pouvoir le fournir à l'ensemble des organismes. Et donc, encore une fois, c'est encore les organes sensoriels qui vont en profiter le plus rapidement possible.
Oui, je vais ajouter sur ce que vous dites un conseil. Que si pour quelqu'un, il vient et souffre d'une hypoglycémie, il risque de tomber dans les pommes, le mieux, c'est lui donner à boire Coca-Cola.
Voilà. Parce que c'est des sucres rapides.
Mais pas les Coca-Cola zéro.
Non, ça ne sert à rien.
C'est du sucre. Il faut lui donner des Coca-Cola parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans, donc ouais. Il n'a pas besoin de manger beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'il est mieux? Le sucre, un carreau de sucre, c'est un ochel. Un ochel. Et le Coca-Cola, c'est une boisson. Une boisson, c'est kedei
liquide.
Melolugmav. Qu'est-ce qu'il est plus? Un kotev ou un melolugmav? Melolugmav, le Mishnevrou, le Shulchan Aruch, il dit que c'est 2/3. C'est 2/3 d'un œuf. Et un kotevet, c'est combien? Un kotevet, on avait eu une machloka dans la Gemara, si c'est plus que kebeitza ou moins que kebeitza. Justement, la lacha, il est resté, c'est moins que kebeitza. C'est peut-être aussi 2/3, peut-être un melolugmav, moyenne. Un moyen melolugmav et que botevet, c'est la même chose. Et quand on boit un melolugmav de Coca-Cola, est-ce que
il y a plus de sucre,
sucre ou moins de sucre qui est dans le sucre?
Non, il y a plus de sucre dans un melolugmav de Coca-Cola que dans un morceau de sucre.
Non, mais si je prends un melolugmav de sucre, si on va dire un melolugmav, c'est combien? C'est 3/4 de sucre. C'est 3/4 de sucre peut-être. Où il y a plus de sucre? Dans du Coca-Cola melolugmav ou dans le sucre melolugmav?
Dans du Coca-Cola.
Pourquoi?
Comme ça, ils disent que dans un verre de Coca-Cola, ça correspond à 7 morceaux de sucre. de 10 centilitres, on va dire un révit de…
Un verre de combien?
Révit de Coca-Cola, ça correspondrait à 7 morceaux de sucre.
Un révit de Coca-Cola, c'est 7 morceaux de sucre.
Fondu dans de l'eau. C'est énorme.
Parce que dans le sucre, il y a de l'air dedans. Il triche dans le sucre.
Mais chaque morceau de sucre, c'est 5 grammes. Chaque morceau de sucre, c'est 5 grammes. Le body sommier, publicité gratuite.
5 grammes. Et dans un Coca-Cola qui a 5 grammes, il y a combien de sucre?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Mais c'est un peu moins. Parce que
le Coca-Cola, il y a des grammes de glucose aussi. Il faut faire attention. Le sirop de glucose, c'est beaucoup plus… Il y a une valeur énergétique beaucoup plus importante dans du sirop de glucose que dans du sucre à proprement parler. Hein.
Oui, oui.
Bah, vous prenez maintenant les bons mots qu'il y a d'aujourd'hui, il y a marqué toujours sirop de glucose. Hein. Le sirop de glucose, c'est beaucoup plus sucré que le
sirop de glucose contient plus de glucose qu'un sucre.
Jamais entendu ça, surprenant.
Bah, le sucre, c'est du saccharose, alors que le sirop de glucose, c'est vraiment du glucose, quoi. C'est du glucose concentré.
Et dans le Coca-Cola, il y a quoi?
Je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir du sirop de glucose aussi. Il faudrait voir la composition du...
A priori, Coca-Cola, c'est beaucoup plus que Melo Lugmav. Beaucoup plus.
Ça, hein?
Parce que Coca-Cola, si vous mettez Coca-Cola à combien? 48 grammes, vous allez mettre à quoi? 42. Eh bien, 42, ça représente 8 tablettes de sucre. Le Coca-Cola, si vous prenez Melo Lugmav, c'est une partie du Revit. Ça ne fait pas 8 tablettes de sucre, quand même.
Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Répétez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit?
Je répète. Cacotevet, vous le mettez à combien de grammes? Si vous le mettez autour de 45, 48 grammes.
Non, moi, je ne mets pas du tout de grammes. Moi, je mets du volume.
Oui, mais
il n'y a pas de grammes.
En volume, ça correspond à un certain poids.
Non. Volume. Dans un carreau de sucre, vous avez matière-air. La matière, c'est de l'air. Et quand même, vis-à-vis du chiffre.
On avait étudié ça avec le Rav. Vous étiez là, on avait étudié ça avec Rav Dreyfus. Il avait donné des poids, des mesures en grammes.
Moi, je ne connais pas grammes. Je ne connais pas de grammes. Je ne connais aucune Torah qui parle de grammes.
Quand on parle du kazaïd.
Dans ma Torah, il n'existe
quand
pas.
Quand on parle du kazaïd, c'est un volume. Pourtant, volume. On parle en grammes, que ce
on
soit.
On parle pas. Ceux qui parlent en grammes, ils prennent ses responsabilités. Ceux qui parlent en grammes prennent ses responsabilités. Je vais expliquer pourquoi ils parlent de grammes. Parce qu'ils se mettent à peu près sur le poids de grammes. Mais dès qu'il y a de l'air dedans, ça ne marche plus.
Et si on parle en pourcentage?
Une seconde. Une olive n'a pas d'air. Donc, on fait à peu près le volume d'une olive avec grammes, on a transformé ça artificiellement en grammes. Dès que vous parlez d'un sucre ou d'un pain où il y a de l'air dedans, et des fois il y a du pain beaucoup d'air, des fois il y a du pain moins d'air, la Torah ne connaît pas les grammes,
un morceau de sucre, la Torah c'est ne connaît dense. Que les volumes. Un morceau de sucre, c'est dense. Un morceau de sucre, c'est dense. S'il n'y a pas d'air. Prenez 6 ou 8 tablettes de sucre, vous allez voir, ça fait le volume du kazaïd d'antan.
Je vais vous prouver qu'il y a beaucoup d'air dedans. Voulez-vous ma preuve?
Je vous écoute.
Alors, vous prenez un sucre qui est dur.
Ouais.
Et vous mettez dessus une goutte. Il va être absorbé. Une deuxième goutte. Il va être absorbé. Une troisième goutte. Il va être absorbé. Et il ne va pas grandir. Il va toujours rester. Si c'est un sucre belgique, là, les sucres durs, il va absorber, et il ne va pas grandir. Comment il absorbe? Et dans les trous, parce que dans le sucre au milieu, il y a des trous, et l'eau, il va rentrer dedans, comme dans un morceau de pain.
L'eau,
vous prenez un morceau de pain, vous pouvez mettre plein d'eau dedans.
Le sucre dense est formé d'un certain nombre de particules, et donc l'eau va couper cette dissociation, mais vous aurez un volume qui va être celui du sucre initial plus l'eau qui est venue s'ajouter.
En tout cas, je ne sais pas. Bon, il faut savoir, est-ce que le mieux, c'est de prendre du Coca-Cola? Ce qui fait une hypoglycémie, qui doit se sauver, quel est le meilleur apport qualité-prix? Je veux dire, quel est le meilleur apport qualité et petite quantité pour pouvoir manger le moins qu'il faut? Ça, il faut demander à un chimiste.
Par contre, il nous reste 4 pages. Hein.
Quoi?
Il nous reste Blineder que 4 pages, 5 pages pour finir.
Et donc, tu veux préparer les pizzas, tu veux dire?
Eh bien, il faut faire un sillon.
Grave.
Un sillon.
Grave.
Ouais.
Qu'est-ce que dire? Est-ce qu'on se rapproche du volume si on
je
parle
vous
du.
Pas.
Du... Ah, est-ce qu'on se rapproche du volume si on parle du pourcentage? Par exemple, il y a 11% de sucre dans le Coca-Cola. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 11%?
Je vais vous parler.
Comment on peut se rapprocher du volume?
Le volume, Yikipour, même l'eau, c'est mitzterev pour le volume. Quand on dit qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas boire melolukmav, si vous buvez de l'eau ou une autre chose, c'est toujours le même chiour. Si dans le Coca-Cola, vous dites qu'il n'y a que 11% de sucre, ça veut dire que 89% c'est de l'eau.
Oui.
Alors, c'est mieux de manger un sucre dans ces cas-là. Dans ce cas-là, c'est mieux de manger un carreau de sucre ou deux carreaux de sucre. Mais de l'autre côté, il me dit que dans un verre, il y a 4 carreaux de sucre. Il y a quelque chose qui tombe par an. Attends. Le docteur, comme il s'appelle, il a dit avant que dans un verre de revite de Coca-Cola, il y a 7 carreaux de sucre. Donc, c'est plus qu'en
c'est la valeur énergétique de 7 morceaux de sucre. La valeur énergétique.
Oui, mais si on voit en grammes, mais en pourcentage, il y a
11% de grammes
dans le Coca. 11 grammes de sucre par litre.
Il faut que quelqu'un fasse une étude dessus. Ça, on ne peut pas comme ça. Alors, Carto, bonne journée.
Ok, bonne journée.
Merci beaucoup. Merci.
Une question? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse à ma question?